Salut les marques et les smarts et bienvenue au supplément SmackDown, votre épisode consacré cette fois-ci au SmackDown du 23 août 2016 qui avait lieu à Uncasville au Connecticut. Et je suis accompagné du célébrissime Giscal. Salut Giscal.
Salut IRM, salut tout le monde.
Alors donc là on sort SmackDown, en fait conclut un peu un week-end de folie en termes de catchesque. Hein. On a eu du NXT, du SummerSlam et du Raw, ces deux derniers ayant été décortiqués par nos copains de catch-up Team Raw. Donc n'hésitez pas à les écouter si vous voulez tout savoir de ce qui s'est passé au pay-per-view le plus hot de l'été et au Raw du lendemain. Il y a eu pas mal de choses très 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 intéressantes, voire surprenantes. Mais nous, on va se consacrer à SmackDown, qui est, on va dire, hein, le meilleur show de la WWE à l'heure actuelle.
Voilà, je pense que ça ne souffre d'aucune comparaison.
je zappe, il y a un petit segment d'ouverture, mais on en parlera un peu plus tard, parce qu'il est relié, on va dire, au fil rouge de la soirée. J'enchaîne directement avec quelque chose de pas du tout anecdotique, puisqu'il s'agit de la présentation des nouvelles ceintures par les GM et le commissionnaire, donc Shane McMahon pardon, et Daniel Bryan. On en parlait, il y avait des rumeurs plus ou moins officielles, on en a discuté pas mal dans les précédents numéros avec l'ami Giscal. Les voici, les voilà. Donc une nouvelle ceinture, donc un nouveau titre pour la division féminine. Et également un nouveau titre pour la division par équipe. Les deux championnats portant le doux nom de champion par équipe de SmackDown et champion féminine de SmackDown. Tout le monde est réuni autour du ring, ou dans le ring, je ne sais plus. Mais tout le monde est là, en tout cas, toutes les représentantes de la division féminine ainsi que tous les représentants de la division tag team sont là. Donc le GM et les commissionnaires nous font un speech de motivation, hein, évidemment, et nous informe que pour couronner des champions par équipe et couronner la champion féminine, il y aura d'une part un tournoi tag team et d'autre part un six-pack challenge, donc un match avec 6 quoi, pour la division féminine. Le tournoi commençant dès ce soir. Par contre, rappelle-moi, Giscal, mais le six-pack challenge, est-ce qu'il aura lieu à...
Alors moi j'ai cru comprendre que le Six Pack Challenge ce serait à Backlash du coup.
Voilà, à Backlash qui, je le rappelle, est le premier pay-per-view entièrement dédié à la brand SmackDown. Et qui également accueillera, j'imagine, la finale du tournoi peut-être.
Et la finale du tournoi, tout à fait, c'est ça.
Voilà, ça me paraît tout à fait logique. Donc Backlash qui aura lieu dans quelques semaines en septembre. Oui. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Intervention de Heath Slater, alors que Daniel Bryan peine à terminer son discours, qui évidemment vient rappeler à son bon souvenir de tout le monde sa présence et surtout ses derniers coups d'éclat, notamment avec Randy Orton et Brock Lesnar. Daniel Bryan brise tout de suite les rêves de Heath Slater, qui évidemment est attiré par l'or des ceintures et lui dit qu'il n'a pas ce qu'il faut, qu'il n'est pas équipé comme il faut pour concourir à devenir le champion de la division féminine.
Jusqu'à preuve du contraire. Hein.
Jusqu'à preuve de contraire. Heath Slater rit un peu jaune, évidemment, qui c'est un beau fait, dit non, mais je parle, c'est évidemment le titre par équipe qui m'intéresse. C'est là Shane McMahon qui, évidemment, en profite également pour lui glisser. Mais écoute, Heath Slater, pour être champion par équipe, il faut être deux. Et là, mon vieux, t'es tout seul. Donc, dans leur grande bonté, les deux figures d'autorité de la brande bleue autorisent Heath Slater à rejoindre le championnat par équipe, évidemment, à la seule condition qu'il se trouve un partenaire officiel d'ici la fin de la soirée. Justement, donc on va continuer sur cette histoire de Heath Slater, histoire de la clôturer. Donc, il tente tout d'abord sa chance auprès de The Miz. Mais ce bon vieux champion intercontinental, puisque The Miz a conservé son titre à SummerSlam, dans son match face à Apollo Crews, ou Apollo Creed, selon les GM, qui est malheureusement trop occupé à gérer sa carrière au cinéma, puisque Steven Spielberg, visiblement, est intéressé par le Miz pour son prochain Indiana Jones. Slater continue sa recherche dans les couloirs. Il tente sa chance avec Ern Anderson, donc l'un des célèbres membres des Four Horsemen, mais sans succès, parce que tout simplement, bah, ce bon vieux Anderson, il est vexé car bah, il n'a pas été le premier choix. Hein. Slater a malheureusement glissé qu'il avait d'abord cherché auprès d'autres partenaires, et donc bah, Anderson, visiblement, il est plutôt du genre à se vexer facilement. Donc, bah, retour à la case départ pour Slater, qui semble abattu, hein, visiblement, il n'avait pas beaucoup de cartes à jouer, le bon vieux Slater, il faut dire que l'épisode dure pas très longtemps. Une main s'abat sur l'épaule, une main assez ferme, hein, s'abat sur l'épaule de Slater dans les vestiaires. Slater se relève, et qui voilà, Rhino qui vient lui proposer ses services, Rhino qui, on le rappelle, avait fait grosse impression en revenant dans SmackDown, justement, pour mettre une grosse dérouillée à Slater. Donc, il vient lui proposer ses services et visiblement, on a donc une nouvelle tag team composée du Rouquin et du gros Rhino, quoi.
Voilà, c'est ça.
Alors, mon bon vieux Giscal, là j'ai parlé de pas mal de choses. Tout d'abord, ton avis
Oui.
sur. On va revenir sur les ceintures. Ça y est, c'est fait.
Ça y
C'est
est, c'est fait.
officiel. On a deux ceintures. Donc, qu'est-ce que tu en penses? D'une part, on pourra toujours parler du look et du nom. C'est
Oui,
peut-être pas
bon.
le plus important.
Non.
Mais voilà, on organise un six-pack challenge pour la division féminine, on organise un tournoi pour la division tag team. Donc, est-ce que tout ça nous emballe et quel est ton avis concernant justement ça y est, ce lancement officiel de ces deux ch nouveaux championnats?
Écoute, bon, oui, en effet, sur le nom et les ceintures, pas la peine de s'éterniser là-dessus, parce que c'est pas forcément le point le plus intéressant. Elles sont, bon, c'est des copies conformes, hein, pour ceux qui n'auront pas vu le show. Sachez que les ceintures par équipe sont, et la ceinture des femmes sont des copies en version bleue, en fait, des titres qui existent déjà.
C'est ça.
Donc bon, moi, j'étais un peu déçu par les noms plus que par les designs. Que les designs, moi j'aime bien, à la limite, bon, ça me dérange pas que ce soit des copies, mais les noms, que ce soit les SmackDown Tag Team Champions et SmackDown Women's Champions, c'est un peu dommage, mais bon,
C'est un
c'est
peu
un détail.
dommage. Après, ça aurait pu être Universal Tag Team Champion et
Oui,
Universal Women Champion. Est-ce que ça aurait
c'est
été
bien,
vraiment
ouais,
mieux?
c'était ça.
Visiblement, à Stamford, on n'est pas très inspirant en ce moment. Du coup, on a peut-être le moins pire de ce qui est sorti de toutes les séances de brainstorming.
Les designs sont beaux, moi je trouve. Mais les noms, c'est vrai que c'est très bizarre. Mais les
Fin
designs, surtout celle par équipe, je la trouve très classe en fait. Je trouve beaucoup plus classe que
oui,
l'original,
elle est,
celle.
donc les plaques hein, sont en argent, alors que
Ah,
les
très peu,
traditionnelles
je
sont
pense.
plutôt en cuivre et les ceintures sont en cuir bleu, effectivement. Donc
Bon.
c'est plutôt élégant, effectivement.
Plutôt
Après,
classe.
bah, on peut regretter effectivement que, alors que Raw et SmackDown affichaient clairement, en particulier SmackDown, leur volonté d'affirmer
De
une
se
certaine, de se
différencier, ouais.
différencier, d'affirmer leur propre personnalité.
Peu dommage.
Finalement, on met tout dans le même moule concernant les ceintures, les titres, c'est un peu pareil, on rajoute juste SmackDown. Bon, voilà, on a été un peu pris de court,
Ah, dommage.
j'imagine, pas très
Ouais,
inspiré.
c'est possible.
Bon, après, juste pour conclure là-dessus, les visuels les looks des ceintures, ça se change et ça a déjà été changé
Oui,
des
ça
centaines de fois dans le
peut
passé,
aller
donc.
assez vite, hein. Ouais. Mais bon, toujours est-il que sur les divisions, ben, en fait, on reprend un peu la suite de notre discussion de la semaine dernière, hein, parce que on en avait un peu parlé. Est-ce que pour nous, la division par équipe était assez fournie pour entre, enfin pour tenir des feux d'un titre et notre, enfin moi, en tout cas, mon constat, mais c'était un peu notre constat, si je parle pas pour toi, mais c'était un peu léger. Enfin, c'est, on va dire
Oui,
que,
on était d'accord, disons que c'était
ouais.
numérairement parlant. Effectivement, il y a le nombre, quoi. Hein.
Il y avait,
Après, en
il y a eu
termes
un peu.
de qualité technique, elle est sûrement là quelque part, mais c'est plus en termes de build, quoi, de construire des tag teams qui, effectivement, pour beaucoup d'entre elles, ont souvent écumé la low card et enchaîné les défaites.
C'est ça le problème, c'est que du coup, il va falloir maintenant remonter la pente pour pas mal de tag team. Alors, l'avantage, c'est qu'on en reparlera sur le reste de l'épisode, mais j'aime bien ce concept de tournoi. Je pense que c'est important de l'avoir lancé comme ça, parce que moi, ce dont j'avais peur, c'était que finalement American Alpha, de par leur build depuis plusieurs semaines, depuis leur arrivée, soit un petit peu propulsé en haut de l'affiche pour le match pour le titre, et puis on leur définisse des adversaires comme ça, et ce qui fait que ça aurait peut-être un peu tué dans l'œuf la construction de l'ensemble des équipes et de l'ensemble de la division, de déjà mettre le focus sur une équipe en particulier et de tout de suite créer une feud, et ce qui fait que bon, bah, ils se seraient d'entrée de jeu enfermés dans bon, bah, c'est American Alpha contre telle équipe. Ils vont gagner leur feud et ensuite il va falloir en trouver une autre et tout. Là, le fait d'avoir lancé le truc sous forme de tournoi, bon, déjà c'est toujours plaisant. Moi j'aime beaucoup les tournois.
Oui, et puis ça illustre quand même, ça reste pour une fois, on va dire, ça reste
Voilà,
cohérent par rapport au discours de
je
Daniel Bryan qui est tout le monde a sa chance, donc quoi de mieux qu'un tournoi pour donner sa chance à tout le monde.
C'est ça. Donc, du coup, on a les Usos, Ascension, American Alpha, Breezango.
C'est
Tout ça,
ça.
c'est correct. On va dire, ces quatre équipes-là, moi je trouve ça plutôt correct. Breezango, il y a quand même, Breezango, il y a tout un boulot déjà avant la séparation des brands. Il y avait quand même un petit boulot pour les remonter, je trouve, pour les rendre un peu plus crédibles. Ils avaient généralement des matchs un peu longs, des matchs un peu plus sérieux. Et d'ailleurs, on le verra dans le show, c'était plutôt un très bon match. Donc cette équipe-là a du potentiel. Et puis après, moi, à côté de ça, on a les Hype Bros et les Vaudevillains. Bon, ça c'est un peu plus comédie, je pense que ça n'ira pas forcément beaucoup plus haut. Et puis bah, maintenant, c'est la surprise Rhino East Slater qui fait que le tournoi se transforme en un tournoi à 8. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe qu'on ne connaît pas encore, donc c'est assez intéressant. Parce que
Oui, parce
pour
que
l'instant,
c'est un
on n'a que
tournoi
cette
à
équipe.
élimination directe, hein, c'est pas
Oui,
un championnat.
non, donc on est dans les quarts de finale, là, c'est pendant l'émission. Donc du coup, on a en plus une petite surprise parce qu'on a une équipe qui devrait techniquement arriver en plus. Donc voilà. Bon, numériquement, le constat reste un peu le même. Hein. Numériquement, voilà, on y est. Après, je suis pas encore super convaincu que sur le long terme, on soit capable de faire beaucoup de choses avec quatre équipes vraiment sérieuses et quatre équipes dans lesquelles, en plus, il y a des équipes. Bon, il faut quand même qu'elles remontent un peu la pente. Donc à voir. Est-ce que le salut passera par peut-être un heel turn des Usos ou la montée d'une autre équipe de NXT ou l'arrivée d'une nouvelle équipe de tout court, peut-être, je sais
Oui, on
pas.
peut
Faut
imaginer une
voir.
formation de voilà de
Oui.
deux compétiteurs solo, ce qui a été
À
fait
l'instar
récemment à
de
Raw, donc.
Combo. Ouais. Bon, à voir. Je pense que enfin, je suis pas forcément inquiet. S'ils veulent faire quelque chose de bien, ils peuvent le faire. Le roster est suffisamment profond pour créer ou faire monter des équipes. Là, dans l'état actuel des choses, je suis un petit peu sceptique parce que ça me semble léger. Et vu comment ils semblent s'occuper de leur ceinture de manière générale et d'avoir déjà du mal à gérer leur pool de ceinture au quotidien, en rajouter deux autres, bon, c'était ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Hein. C'est juste, moi, je suis sceptique sur la capacité des bookers, ou en tout cas la volonté des bookers à faire quelque chose de correct pour tout le monde. Mais.
Disons qu'ils là ils viennent clairement ils viennent de se mettre un gros
Ah là, ils se sont mis de la pression, hein,
une
parce
grosse
que.
pression, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le voit. Ça se trouve les mecs sont totalement relax, ils disent ouais,
En fait,
on rajoute 10 ceintures ou 3 ceintures, on bookera pareil de toute façon. Donc bah du coup là on va parler de ces deux fameux premiers matchs du tournoi. Effectivement The Ascension affrontait donc The Usos dans un match où effectivement bah, ça fait plaisir malgré tout de voir quand même The Ascension et d'autres équipes de la low card qu'on
c'est ça.
apercevait à peine, voire pas du tout avant le brand split, qui peuvent enfin voilà remontrer à nouveau leur catch, hein, qui est assez un catch assez agressif,
Plutôt physique, hein.
plutôt physique, et donc ils font parler leur physique face aux Usos, que bah, c'est plus la voltige, on est un peu plus dans la frime, les kicks et ça saute dans tous les sens. Donc bah victoire. Donc là, on ne sera pas trop étonné, malheureusement, bah, des Usos sur The Ascension, grâce à un enchaînement de super kick et le fameux Uso Splash de Jimmy sur l'un des Illuminati.
Oui, c'était Connor ou Victor en
Connor
mémoire.
ou Victor, un des deux. Un petit avis rapidement sur le match, Giscal?
Oh, écoute, match très rapide et très efficace. Moi, je saluerais l'effort des quatre pour avoir finalement fait quelque chose de très très agréable en si peu de temps, parce que je pense que le match a duré à peine 3 minutes. Donc c'était une sorte de squash un peu prolongé plus qu'autre
Ouais.
chose, avec on va dire pour remettre un peu le moveset des Usos dans l'esprit des gens, parce que ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus.
Exactement.
Donc c'était très très bien pour la durée que ça a pris. Donc j'étais satisfait de ce match. Et puis du vainqueur, je trouve que c'est assez logique.
Donc on enchaîne du coup avec le deuxième match, puisqu'il a eu deux matchs pour ce premier première phase du tournoi. Donc bah, les fameux Brisango, donc Taylor Breeze et
Oui.
Fandango, affrontaient les célèbres dorénavant American Alpha. Donc Brisango, on les connaît plutôt pas mal à la WWE. American Alpha, ils viennent à peine de débuter, mais les suiveurs de NXT les connaissent plutôt bien. Donc clairement là, donc American Alpha, c'est de la lutte, c'est de la technique hein, pure, avec quand même pas mal de prises assez. Enfin, il y a vraiment une alchimie entre les deux en termes de tag team face à Brisango, qui est peut-être un catch un peu plus classique. Je ne sais pas comment on pourrait vraiment le définir. Toujours est-il qu'au final, victoire donc des jeunes loups American Alpha
Ouais.
sur Brisango. Donc là, une fois de plus, pas de surprise hein, dans le résultat final. On est vraiment plus dans la démonstration voilà, des forces en présence. Donc American Alpha qui a remporté la victoire à leur célèbre Grand Amplitude.
Ouais,
Qui est donc
super ça.
leur finish move assez impressionnant, en tout cas assez
Ah,
solide,
c'est
qui correspond bien à une équipe, donc sur les Brisango. Donc est-ce que tu as un avis sur ce match?
Ah bah moi j'ai trouvé ce match vraiment excellent. Ça si alors on verra que ce n'est pas le show stealer de la soirée, mais ça aurait pu dans beaucoup d'émissions hebdomadaires ça aurait pu l'être. Donc je conseille à tous ceux qui nous écoutent qui n'avaient pas vu SmackDown, mais bon de toute façon je pense qu'après ce podcast ils le regarderont en entier parce qu'il était vraiment très bon. Mais il faut voir ce match. C'était un des meilleurs matchs par équipe depuis un bon bout de temps. Ça a duré plus de 10 minutes, ils ont eu beaucoup de temps, c'était vraiment très sympa d'ailleurs pour Brisango, je trouve, qu'il soit dans un match aussi long. Donc c'était vraiment un excellent match et je serais pas aussi catégorique sur le. Enfin, tu disais, ça permettait aussi de faire un peu un showcase des moves. Je trouve que Brisango, par moment, m'ont presque. Bon, on savait qu'American Alpha gagnerait, mais ils m'ont presque fait douter par moment. Il y a eu des très beaux near falls, il y a eu des très beaux enchaînements. Brisango a vraiment été excellent. Et ça me fait plaisir de les voir. Ça montre aussi, je pense, qu'ils ont quand même un peu la confiance derrière eux des bookers de SmackDown, de les voir aussi bien exposés aussi longtemps face à l'équipe qui, manifestement, sera la top team à SmackDown. Ça aurait pu, voilà, à mon sens, ça aurait même pu être une demi-finale plutôt dans le tournoi. Sympa, c'est dommage de voir ça en quart et de voir Brisango sortir si tôt. Ça aurait pu être une demi-finale contre American Alpha, mais bon, c'est comme ça. Donc excellent match et c'est le genre de match qui me laisse penser qu'on reverra Brisango dans le haut de l'affiche des équipes assez vite après le tournoi parce que ils développent vraiment quelque chose de bien tous les deux, je trouve.
C'est un de ces fameux matchs où le perdant est peut-être le gagnant, quoi.
C'est ça, ouais. Parce que voilà, le gagnant American Alpha, il gagne rien. Bon, si évidemment, il gagne le fait d'avancer dans le tournoi, mais ils gagnent pas beaucoup plus en termes de positionnement vis-à-vis du public. On savait que c'est eux quoi, l'équipe à battre. Voilà.
Donc on va enchaîner avec l'autre division qui dorénavant possède un titre, hein, puisqu'il s'agit de la
Oui.
division féminine. On a eu deux matchs ce soir, donc ce n'est pas rien, dans un
Non, c'est
épisode
beaucoup.
d'à peine 1h20 sans les pubs. Premier match, et bien tout simplement Becky Lynch qui a affronté Alexa Bliss. Donc on peut considérer ça comme des matchs de préparation un peu pour le six-pack
C'est
challenge,
ça,
hein,
j'imagine. Ouais.
histoire de justement montrer une fois de plus les forces en présence. Au commentaire, Natalia et Naomi. Comme ça, on a réussi à mettre tout le monde, même si tout le monde n'a pas un match, tout le monde sera là ce soir, hein, qui évidemment bah, se chauffe aux commentaires. Donc dans ce match opposant Becky Lynch et Alexa Bliss, Becky Lynch qui est un peu à la fois celle qui semble la plus, presque quasiment la plus légitime, en tout cas la plus attendue pour être la première couronnée, mais qui souffre malgré tout bah, d'un compteur de victoires assez faible, en tout cas
Ah
des victoires de
ça, ouais.
prestige. Hein, on se rappelle que depuis WrestleMania, Becky Lynch, bah,
Elle perd,
malheureuse, elle
quand même.
perd quoi. Alors, on pourrait résumer ça à elle perd. Hein.
Soit elle perd, soit elle se fait tabasser en backstage.
Voilà. Donc clairement, il faut remontrer une Becky Lynch forte qui gagne Et c'est ce qui s'est passé, puisque malgré, on va dire, les compétences athlétiques d'Alexa Bliss et sa hargne, hein, parce qu'Alexa Bliss, clairement, elle en veut aussi, parce que c'est un petit transfuge de NXT, qui est également attendu pour les connaisseurs. Mais la force et toute la rage de Becky Lynch est plus forte, et c'est une victoire donc de Becky sur son célèbre, sa célèbre prise de soumission, le Disarmer. Donc, grosse pop évidemment pour Becky Lynch qui avait déjà profité d'une grosse pop lors de l'annonce de la ceinture en début de show du public. Donc, victoire de Becky Lynch. Est-ce que, Giscard, tu penses que c'est bon, Becky Lynch, elle est partie pour prendre le titre? Est-ce que c'est un boulevard pour elle, ou est-ce que tu aimerais voir peut-être un peu plus de compétition et autour de ce titre, quoi?
Ah, moi, oui, bah, moi clairement j'aimerais voir plus de compétition. Je pense pas que du tout que ce soit un boulevard. À la limite, c'est le point positif de ce SmackDown, c'est que j'ai avant ce SmackDown, je pensais que ça potentiellement ça pouvait être un boulevard pour Becky Lynch parce qu'il y avait que elle qui semblait armée aussi bien scénaristiquement que dans le ring pour faire quelque chose en fait avec la ceinture, parce que hormis le running gag Eva Marie, c'était un peu elle qui était présentée comme la catcheuse de SmackDown. Donc je pensais que ça allait être le cas. Maintenant, je suis plus si sûr que ce soit un boulevard, parce que SmackDown a plutôt fait un bon boulot pour mettre en avant d'autres filles cette semaine, et dont Alexa Bliss d'ailleurs, qui est plutôt surprenante. Enfin, moi, je ne la connaissais pas du tout. Je suis plutôt agréablement surpris par ce qu'elle a pu montrer dans le ring. Faut pas oublier que du coup, elle avait quand même battu Becky Lynch la semaine dernière, ou il y a 2 semaines.
Et oui, tout à fait. Donc pour l'instant, les compteurs sont plutôt
Donc
à un partout, hein.
elles en sont un partout. On peut pas non plus dire que voilà que Becky Lynch écrase la concurrence. Elle vient de bon bah voilà, elle a repris sa victoire, ce qui était important. Non, il y a pas forcément un boulevard. Alexa Bliss, c'est très intéressant. On verra par la suite sur la suite du show. Enfin, tu vas en parler justement, j'imagine juste après. Mais il y a eu un autre match féminin. Enfin, il y a un autre match féminin avorté. Mais du coup. D'autres filles sont dans le mix. Il y a eu au commentaire de ce match-là, il y avait Naomi et Natalia qui étaient là. Naomi avec sa nouvelle entrée, sa nouvelle qui semble plutôt bien marcher auprès du public et tout. On peut se dire
Ah ouais,
que
je confirme, hein. Moi,
ouais,
sur moi, ça marche très très bien.
on va dire qu'elle va peut-être avoir une petite carte à jouer là-dessus, parce que parfois ce sont ce genre de petites choses qui font que bah, les bookers peuvent foncer tête baissée et donner leur chance à quelqu'un. Donc pourquoi pas. Et puis bon, bah, Natalia, elle est toujours là quand même, donc elle a l'expérience. Elle pourrait faire tout à fait une première championne de SmackDown tout à fait crédible. Donc pourquoi pas. Donc non, il n'y a pas forcément de boulevard. Je suis plutôt satisfait du travail fait cette semaine avec le Six Pack Challenge, parce que je trouve que toutes les filles ont été plutôt montrées sous leur meilleur jour de manière générale, sauf une qui n'était pas là, et tant mieux.
Oui, donc tu fais référence à Eva Marie qui a
C'est
été
ça.
pris par la brigade
Voilà.
assez
Ouais.
récemment et du coup qui n'a pas participé à SummerSlam et qui a du coup été remplacée par celle dont on va parler puisqu'elle avait un match ce soir. Il s'agit de Nikki Bella
Voilà,
qui
Nikki
donc
Bella.
célébrait son grand retour après des mois et des mois de convalescence suite à une grosse grosse blessure.
Qui manifestement était signée à SmackDown, du coup.
Qui du coup, par la même occasion, même si finalement ça n'a pas
N'a pas
été
trop, ça n'a pas été trop médiatisé, hein, donc.
médiatisé, donc a signé par la même occasion à SmackDown, on pourrait peut-être regretter effectivement l'absence d'informations ou de médiatisation, même un simple mot concernant tous ces free agents qui débarquent dans les shows après la draft. Voilà, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont signé à SmackDown ou à Raw, par exemple? Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est des choses qui sont intéressantes, hein, quand on voit combien Heath Slater se bat pour avoir un contrat et qu'on voit les autres arriver par petites vagues.
Oui.
Toujours est-il que bah, Nikki Bella affrontait ce soir Carmella. Nikki Bella qui donc avait rejoint la team des Heels, si on peut dire, lors du fameux match à SummerSlam et qui avait donc apporté la victoire en plus à son équipe. Donc gros retour. Donc elle devait affronter Carmella ce soir. Donc au début, elle commence à être interviewée par René Young, qui a un petit peu de mal d'ailleurs à la canaliser, puisqu'elle est absorbée littéralement par le public, qui alors a une pop énorme pour la femme de John Cena.
Oui, c'était impressionnant.
Assez impressionnant, effectivement. C'est peut-être même
Même à SummerSlam
la
d'ailleurs,
plus
c'était
grosse
une
pop. Ah
grosse
bah alors
pop.
SummerSlam, ouais, alors le toit s'est envolé. Probablement des plus grosses pop à la fois de SummerSlam et même de SmackDown. Hein. Et Carmella, l'interview n'a même pas le temps de vraiment commencer, que Carmella bah, s'en prend à Nikki Bella, donc agresse Nikki. Et donc marque là, bah, on peut le dire, hein, une sorte de heel turn de Carmella.
Ah bah complètement,
Complètement.
ouais.
Et probablement, de par sa victimisation, Nikki Bella pourrait également donc marquer un face turn, puisqu'il faut le rappeler, vu la pop qu'elle a, je pense qu'elle a rejoint la team des heels à SummerSlam pour faire le nombre. Mais la pop est tellement énorme que les bookers bah, ont fait la petite tour de passe-passe qui. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, était probablement le plus intéressant parce que clairement, Carmella, à la fois sa gimmick et le fait que ça ne prenait pas tellement avec le public, aura sûrement une meilleure carte à jouer en tant que heel. Et Nikki Bella, avec sa pop, évidemment, est une face assez naturelle. Donc, qu'en penses-tu de tout ce qui est de ce fameux double turn finalement? On parle souvent de double turn, on attendait un double turn à Dolph Ziggler dans le Dolph Ziggler versus. Dean Ambrose, on attend des double turns partout, et là il y en a eu un petit.
C'est ça.
Donc finalement, à SmackDown, on n'est pas trop mal loti.
Bah du coup, ouais, double turn en effet, IRM, double turn, bah, c'était un peu surprenant. Moi, je m'y attendais pas du tout, du tout. Par contre, je pense que c'est une bénédiction pour les deux d'ailleurs. Une bénédiction pour les deux parce que bon, Carmella, on l'a dit par le passé avec tout le monde à peu près, hein, avec Hank, avec Ringside, avec toi, elle allait droit dans le mur. Mais genre à pleine vitesse, avec son entrée pourrie, qui d'ailleurs ça fait 2 semaines qu'ils ont squeezé son entrée au micro parce que ça ne marchait plus, ça ne marchait pas d'ailleurs, ça n'a jamais marché. Et puis même, je pense que même en face, elle aurait pas fonctionné tout court. Donc là, c'est une très très bonne nouvelle pour elle et de manière générale pour les filles à SmackDown, parce que comme elles sont pas très très nombreuses, je pense qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir un personnage.
Qui ne fonctionne pas, quoi.
Qui ne fonctionne pas, enfin voilà, laisser sur le carreau, c'est pas possible. Donc il fallait faire quelque chose et c'est tout à l'honneur des bookers et de Carmella aussi, j'imagine, de prendre sur eux et de changer aussi vite de direction parce que son personnage est encore assez jeune, donc ils auraient pu se dire qu'il fallait persévérer ou quoi que ce soit, mais non, voilà, c'était sûr que quand on rentre avec des bruits de criquets pendant 5 semaines de suite, il faut faire quelque chose. Donc là, c'était très bien. C'était un turn très classique, hein, agression sur un gentil qui revient. Alors gentil, gentil, gentil pourquoi? Parce que je pense que le public a dû prendre en affection Nikki Bella qui revenait après une blessure qui, mine de rien, aurait pu mettre fin à sa carrière quand même. Elle s'était blessée assez gravement à la nuque ou au cou, enfin, en tout cas je sais pas, mais enfin, toujours une région très compliquée pour les catcheurs. Donc je pense que sa pop aussi vient de là. C'est vrai que voilà, elle a surmonté cette blessure assez grave. Elle revient. Donc c'est bon voilà, les Américains sont assez friands de ce genre de comeback un peu héroïque. Puis bon, c'est la femme de Cena, alors c'est assez symbolique. Mais du coup, elle est face un peu de facto. Donc c'est bien, c'est plutôt bien exécuté et c'est bien exécuté aussi pour la division féminine qui se retrouve du coup avec une deuxième top face assez forte parce que Nikki Bella c'est quand même pas n'importe qui. Donc maintenant ils ont Nikki Bella et Becky Lynch et en face ils ont des heels déjà un peu plus sympa, je trouve, en rajoutant Carmella et avec Alexa Bliss qui a montré des choses. On attend toujours de savoir si Eva Marie va être sérieuse ou pas. Mais voilà, après cet enchaînement de deux segments dont on vient de parler, je suis déjà un petit peu plus confiant de ce qu'on peut faire avec les filles à SmackDown. Donc je trouve que c'était bien bien exécuté et surtout très bienvenu.
Donc nous voilà rassurés pour la division féminine. Alors je ne sais pas, on avait besoin d'être rassurés, c'était pour Randy Orton suite donc à ce sanglant main event de SummerSlam qui a fait couler à la fois beaucoup de sang et beaucoup d'encre.
Beaucoup.
Donc Randy Orton qui donc a perdu son match face à à Brock Lesnar, la bruine Brock Lesnar, hein, qui l'a complètement mis à terre et
Démoli.
démoli et explosé la boîte crânienne, puisqu'il s'est retrouvé en sang et qu'il a gagné, la Brock Lesnar a gagné par TKO, donc KO technique. Toujours est-il que, surprise ou non, mais en tout cas, Randy Orton est là ce soir et ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, il vient en se grattant un peu le crâne, il est avec le sourire. La blessure n'était pas si grave que ça, elle était visiblement très impressionnante. Puisque,
Manifestement, 10 points quand même, hein.
voilà, je pense qu'il peut rajouter ça à la longue lignée des points de suture de la vie d'un catcheur.
C'est ça.
Donc c'était comme une grosse ouverture, mais bon, ça a l'air d'aller. En tout cas, il avait le sourire. Donc il prend le micro, voilà, et hein, il se demande pas, hein, il a pris une grosse dérouillée. Hein, sans grosse surprise, il s'y attendait, tout le monde s'y attendait. Bon, voilà, on pensait évidemment qu'il avait une petite chance avec tout ce qui se passait un petit peu autour, en dehors
Ah ouais.
du kayfabe. Et puis Randy Orton, il avait l'air assez motivé quand même. Il avait fait forte impression.
Finalement, il s'est pris une
Et finalement, il s'est pris une grosse branlée. Au
branlée.
passage, juste pour clore cette histoire de le cas Brock Lesnar, on apprend à un moment donné backstage par Shane McMahon que Brock Lesnar a écopé d'une amende, hein, pour, je pense, être attaqué à Shane McMahon
Oui, c'est ça.
après le match, parce qu'il lui a porté un F5, une amende de 500 $. C'est peut-être rien pour Brock Lesnar, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. En tout cas, pour Shane McMahon, ce n'est pas suffisant, et donc Shane McMahon visiblement annonce que ça n'est point fini de cette histoire. On revient sur le ring avec Randy Orton, qui commence alors à s'adresser, qui continue à s'adresser, qui commence à parler de Shane McMahon, si je me trompe pas. Toujours est-il qu'en tout cas, il est interrompu par le noir et l'apparition de Bray Wyatt, donc qui s'approche du ring, donc avec sa célèbre musique. Donc Bray Wyatt, tout de noir vêtu, avec sa capuche, l'homme sombre lui rappelle à Randy Orton qu'il n'est qu'un homme après tout, mais que lui, Bray Wyatt, est un dieu, et qu'un dieu, ça ne meurt jamais. Blablabla, hein, vous connaissez un petit peu les discours habituels de Bray Wyatt, hein, ça c'est un peu la constante
Oui.
depuis certaines années, ainsi que ses nombreuses défaites. Et donc ça s'arrête là-dessus, coupure promo, et Bray Wyatt disparaît comme il est apparu, laissant Randy Orton seul au milieu du ring. Donc nous y voilà, hein, cette rivalité Bray Wyatt et Randy Orton, mon brouilleux giscal, dont on avait parlé la dernière fois, puisque les deux s'étaient croisés entre deux segments, par un simple jeu de regard, avaient laissé sous-entendre une possibilité de rivalité.
Ce n'est jamais innocent, les
Ce n'est
regards.
jamais innocent, et les bookers, les scénaristes en tout cas, ont bien fait leur boulot à ce niveau-là, ou les catcheurs, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont bien fait leur boulot. Puisqu'effectivement, une rivalité s'annonce entre le dévoreur des mondes et la vipère. Alors, qu'est-ce
C'est
que
ça.
tout cela te donne comme impression, t'inspire?
Moi, ça m'inspire beaucoup. On en avait parlé aussi la semaine dernière. Ça me va très bien comme feud. Je pense que c'est une excellente feud pour les deux. Parce que Bray Wyatt, ça lui fait une feud de très haut calibre. Hein, parce que Randy Orton, c'est pas n'importe qui. Il vient de faire le main event de SummerSlam. C'est le Legend Killer. C'est un multiple champion du monde. Et puis mine de rien, c'est un petit peu une légende maintenant. Il se positionne un peu comme maintenant un face vétéran à SmackDown, et je pense que
C'est ce qu'il
c'est
est,
bien.
oui.
Ouais, c'est bien pour lui de finalement de se mettre en rivalité avec des jeunes comme Bray Wyatt, et pour leur donner un max d'exposition et de spotlight, et justement de les faire profiter de son aura et de son expérience. Donc, même si, truc assez dingue quand même, parce que j'avais regardé ça après SmackDown, mais Randy Orton n'a que 36 ans. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est là depuis tellement longtemps, mais d'ailleurs il est là depuis tellement longtemps, mais c'est toujours assez
Ah
impressionnant.
c'était, rappelons-le, le
Il est
plus jeune
si jeune.
champion
Ouais,
de la
champion de la
WWE,
WWE.
clairement, hein, c'est un enfant de la balle, et il a déjà une longue carrière malgré sa jeunesse.
Du coup, c'est très bien. Moi, je pense que voilà, c'est une excellente rivalité pour Bray Wyatt, qui, je vais prendre la suite de ce qu'on avait dit la semaine dernière, mais je pense peut a les moyens de s'installer comme top, pas top heel, puisque le spot est pris en ce moment et pas par n'importe qui, mais en tout cas par vraiment dans le très très haut de l'affiche de SmackDown à moyen terme et être un futur champion du monde là-bas assez rapidement parce qu'il a, il a le potentiel, il a le personnage, il a l'appui du public, en tout cas la réaction du public. Donc c'est ce genre de rivalité qui font que il peut en continuer à monter et à progresser. Donc moi je suis très satisfait. Puis en plus c'est une affiche inédite et déjà rien que pour ça c'est agréable.
Oui, quand on voit effectivement Bray Wyatt affronter de nombreux stars, top stars depuis ses débuts, effectivement,
Impeccable.
quand il a fait Sheer, Randy Orton, leur chemin ne s'était jamais croisé jusqu'à aujourd'hui.
C'est ça. Donc du coup, c'est du tout bon. Ça va nous donner une série de matchs assez sympa. Voilà, c'est ce que j'attendais. Bon, là, on l'a pas trop eu, mais à mon avis, on l'aura dans les semaines à venir. C'est que ça va être aussi une opposition de style assez fun, parce que et d'opposition au micro assez fun, parce que voilà, Bray Wyatt nous a fait du Bray Wyatt très classique. C'était sa promo. Voilà, toi, t'es un homme, moi, je suis un dieu. Je ressens pas la douleur, je peux pas mourir. Enfin voilà, promo assez mystique, assez noir, assez sombre. Alors que pendant ce temps-là, Randy Orton, depuis son retour, nous a habitués à des choses beaucoup plus légères, à des moqueries, à des taunts, beaucoup d'insolence, parce qu'il joue sur le fait que, bah voilà, maintenant c'est un vieux briscard, même s'il est jeune. Donc il en profite pour cabotiner, faire son malin, se la péter un peu. Le public adore ça. Donc je pense qu'il va y avoir des promos assez fun entre les deux. Les matchs peuvent être aussi sympas. Ils ont prouvé à tous les deux qu'ils pouvaient faire d'excellents matchs. Donc voilà, moi je suis très content. Très très content. On va bien se marrer. Et puis c'est nouveau, c'est frais.
Ça vient de sortir.
C'est tout chaud.
Là, on va attaquer le gros steak, hein, le gros morceau de ce SmackDown qui va donner naissance à un match de plus de 20 minutes. Je viens de voir, d'aller voir la durée du match, un match de plus de 20 minutes. Donc, petit retour en arrière. Au début de show, on avait AJ Styles qui vient frimer dans les vestiaires avec le brassard. Never give up de notre ami John Cena, qui n'est pas là ce soir, Giscard.
Non, malheureusement.
Qui donc, John Cena a perdu. Hein,
Succombé.
voilà, a
Ouais.
succombé et voilà, est tombé à SummerSlam
C'est bien battu, hein.
dans un match d'anthologie. Hein, franchement, voilà.
J'avais eu la moitié du pronostic la plus facile. J'avais dit qu'il ferait un match de 25 minutes, peut-être même plus, et que ce serait la folie, que ce serait un match de dingue. Ça n'a pas loupé.
Ouais, et donc bah défaite du Marine qui en plus à la fin de son match à SummerSlam donc abandonné ou en tout cas déposé, que je ne
Oui.
sais pas si c'est vraiment un abandon, mais a déposé
Non,
son célèbre
folle.
brassard multicolore Never Give Up au centre du ring. Voilà, c'est une image très très forte. Et là, AJ Styles, ce petit malin a récupéré visiblement le brassard hein, pendant une coupure pub ou je ne sais pas, a récupéré le brassard et se l'est approprié. En tout cas, il se le met sur la tête en fait, puis après il se le met sur le bras, ou je ne sais pas, il a peut-être le
Ouais,
brassard,
c'est ça,
il a
sur la tête
récupéré
au
tous les
début.
goodies qu'il pouvait, je ne sais pas. Et donc il vient frimer dans les vestiaires auprès voilà, de nombreux locardeurs de SmackDown. Il voit un visage qu'il n'apprécie pas, puisque c'est le visage de Dolph Ziggler, le visage d'un loser, puisque Dolph Ziggler a également perdu son match face à Dean Ambrose, donc pour le titre de champion. Donc voilà, provocation de AJ Styles envers Dolph Ziggler. Dolph Ziggler n'aime pas qu'on le provoque, hein. Il est très content d'avoir perdu déjà, alors faut pas venir le faire chier. Donc début de baston dans les vestiaires. On avance, retour en ring, promotion in-ring en cours d'épisode. AJ Styles donc, qui rappelle à nouveau sa victoire. Il rappelle donc voilà, il console les fans de John Cena qui n'ont plus à pleurer puisque John Cena est parti. Puisqu'il c'est très simple, hein, pour ne plus pleurer, il suffit de devenir des fans de AJ Styles.
Jamais.
Jamais, crie
Jamais.
Giscard évidemment, never give up, never surrender. Voilà, c'est ce que ce serait sombrer du côté obscur de la
Obscur.
force évidemment. Donc Dolph Ziggler évidemment apparaît soudainement, il souhaite en découdre, il est retenu par le corps arbitral. On aperçoit d'ailleurs Jamie Noble hein, qui est toujours
Oui,
là. Ça fait plaisir, hein, G.A.G. Security.
ça.
Voilà. Et un mec dont je ne connais pas le nom, mais j'imagine que c'est quelqu'un d'important.
Ouais.
Daniel Bryan arrive, le GM de SmackDown. Et donc, veut mettre un petit peu d'ordre et de sens à tout ça. Pas de ça chez nous, dit-il, pas de baston comme ça, là, en
Oh,
vain.
surtout pas.
Si on
Oh.
se met sur la tronche dans un
Dans un
match,
ring.
dans un
Ouais.
ring, dans un match avec un arbitre. Donc, il annonce qu'effectivement, en battant John Cena, Edge a gagné le statut de first contender de façon assez légitime. Donc, j'ai trouvé ça plutôt bien amené. C'est vrai que en battre John Cena, c'est pas anodin. Et donc, il organise un petit peu, il fait un petit peu sa petite tambouille là, Daniel Bryan. Il annonce que à Backlash, voilà, il y aura un match ce soir entre AJ Styles et Dolph Ziggler, et que l'issue du match déterminera l'affiche du titre, enfin pour le titre de champion à Backlash, le fameux pay-per-view dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'enjeu est simple, si AJ Styles gagne, il affrontera Dean Ambrose à Backlash pour le titre. Bon là, on se dit, de toute façon, oui, il était déjà
Oui,
visiblement first
déjà
contender.
officiel. Oui.
Donc, merci Dean Ambrose. Dean Ambrose, merci Daniel Bryan. Par contre, si Dolph gagne, et c'est là où c'est intéressant, il rejoint la carte dans un triple threat match, donc à Backlash. Donc en fait, pour ce match, Dolph a tout à gagner, mais AJ Styles a pas tout à perdre, mais presque. En tout cas, il aurait un.
C'est-à-dire que ça se transforme en triple threat, donc c'est
Ça se
toujours
transforme en
plus
triple
compliqué.
threat, donc c'est à la fois plus de chances de gagner, mais aussi plus de chances de perdre. Donc, on retrouve un peu plus tard une promo de Dean Ambrose, hein, le champion, parce que finalement, on ne l'avait pas encore vu depuis le début de ce show. Un champion un petit peu dans l'ombre, on va dire, un petit peu discret. Donc, il est interviewé backstage, donc ils sont dans un casino hein, ce soir, donc il était visiblement en train de jouer à la roulette, hein, il claquait un peu de fric, en tant que champion on a un meilleur salaire visiblement,
Ah bah
donc
forcément.
il est un peu, voilà, il profite, hein, il se prend pas la tête, hein, notre Dean Ambrose, hein, il est pas comme ça, c'est pas son genre, donc on lui annonce que ce soir il y a... On lui a annoncé en tout cas que ce soir il y aurait ce fameux match de Ziggler versus AJ Styles avec voilà, l'enjeu qu'il y a derrière. Dean Ambrose, clairement pas grand-chose à foutre. Voilà, il boit son petit verre qu'on lui apporte. Et par contre, il va rejoindre la table des commentateurs.
Voilà, il veut dire, bon, moi je vais aller voir ce qui se
Bon,
passe.
je vais aller voir ce qui se passe. Voilà,
Qu'est-ce qu'il veut?
je vais faire voir quand. Voilà, il est vraiment. Il fait, comme tu
Définis
dis,
vite.
ça le définit bien, il fait ce qu'il veut. Donc début du match, donc alors comme je l'ai annoncé, un gros match
Aïe,
de
aïe,
plus
aïe.
de 20 minutes entre AJ Styles et Dolph Ziggler, avec un enjeu évidemment énorme pour les deux, y compris pour Dolph Ziggler, hein, qui est peut-être un petit peu
Surtout, ouais.
déçu en tout cas pour son match à SummerSlam, à la fois d'un point de vue, enfin le match en lui-même, même si un match ça se fait à deux, et on aura peut-être beaucoup de choses à dire sur l'implication de Dean Ambrose dans ce match, en tout cas sa prestation technique. Mais toujours est-il qu'il a également beaucoup de choses à prouver, parce que s'il ne gagne pas ce soir, il est définitivement sorti de la title picture, en tout cas il est
Ouais.
remis, il retourne à la fin de la file, comme on dit.
C'est ça.
Donc, est-ce que tu as retenu des choses particulières sur ce match? Parce qu'il est tellement énorme que, à part le regarder, enfin, ne pas le regarder ce match, ce serait
Ah, ce serait un crime.
un crime. Pour autant, on va pas vous le lister parce que voilà, c'est 20 grosses minutes de match entre les deux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué avant
Écoute,
qu'on annonce la victoire? Enfin, quel est qui est ressorti victorieux de ce match?
Non, mais enfin, bon, comme tu dis, déjà, il faut absolument voir ce match. C'était vraiment excellent. Ça ne valait pas John Cena et AJ Styles, mais enfin, AJ Styles sort quand même deux énormes matchs de coup sur coup en 3 jours. C'était vraiment exceptionnel. Moi, j'ai trouvé surtout au niveau de la rapidité dans le ring et des contres, il n'y
Ah
avait pas
oui.
de. Il n'y avait pas de spot en particulier très impressionnant et tout. Les deux sont pas forcément déshabitués des trucs de balade à l'extérieur du ring, des suicide dive et tout. Donc il n'y avait peut-être pas genre un spot à vous conseiller en particulier, mais faut regarder au moins, ne serait-ce que peut-être le deuxième tiers ou la deuxième moitié du match pour voir les contres et la vitesse d'exécution sur certains mouvements. Quand je me souviens de quand Ziggler évite le 450 splash pour placer un DDT derrière, où franchement j'y ai cru. Il y a eu un super contre aussi du super kick de AJ Styles qui le transforme en Styles Clash. Il y avait des choses très innovantes qui forcément viennent du fait aussi que le match était nouveau. On n'avait jamais vu les deux combattre. Donc du coup, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et pour une première confrontation, ils nous ont sorti énormément de choses qu'ils pouvaient faire tous les deux dans le ring avec leurs movesets respectifs. C'était très
Ouais,
impressionnant.
on a quand même eu effectivement un match très solide du début jusqu'à la fin avec
Ah
effectivement ce
non.
dernier tiers là complètement fou.
Complètement fou et c'était surtout complètement fou parce que le match était bien booké. C'est ça aussi qui aide. C'est pas
Eh oui.
il y a pas juste les deux qui étaient bons. C'était aussi que le match était très bien booké parce que mine de rien, pourquoi le match était fou, c'est parce qu'on mordait dans chaque tombée de Ziggler parce que c'était pas du tout saugrenu de penser que Ziggler pouvait gagner pour transformer le match en triple threat
C'est un
puisque
peu effectivement la magie du triple threat, c'est que ça rend tout d'un coup possible
Oui,
la
parce que
qualification d'un troisième larron.
c'est ça. Si on nous avait dit avant le match que c'était un match pour le first contender, ça aurait peut-être été plus compliqué pour nous d'imaginer Ziggler
Eh oui.
remporter le match parce que bon bah voilà, AJ Styles, ça y est là, il est lancé, il est lancé sur orbite après sa victoire. À mon avis, il va pas falloir longtemps qu'il finisse champion. Mais là, le fait que le match était booké comme ça, du coup on mordait à fond. Ziggler, il a sorti quelques très très belles near falls et ça donne un match fantastique dans lequel bah on est investi du début à la fin parce qu'on est pas du tout sûr de l'issue. Et autre chose peut-être à souligner pendant le match, c'était donc les commentaires de Dean Ambrose qui étaient vraiment pas mal, j'ai trouvé, parce qu'il a vachement, il a presque pas parlé de lui pour une fois. Il a vachement, vachement mis en valeur Ziggler et AJ Styles pendant tout le segment. Il a monopolisé le micro.
Oui, on
Il
l'a
était
beaucoup attendu, mais c'était avec.
Mais donc toujours dans le fond, voilà, il disait, voilà, Ziggler, il est super rapide, il est très dangereux, il peut vous coucher d'un seul move, machin. AJ Styles, c'est l'expérience, c'est la technique, c'est le background, tout ça. Enfin, il les a bien mis over tous les deux, comme on dit. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis après, il y a eu la petite confrontation. Moi, j'ai bien aimé la petite confrontation après le match, puisque bon bah du coup, AJ Styles gagne. Et va voir Dean Ambrose. Et Dean Ambrose, dans son style caractéristique, AJ Styles arrive collé à lui devant, et Dean Ambrose ne se lève pas, il reste assis. Il reste assis, il le toise, enfin il le toise pas, mais du coup il le regarde, il rigole. Et puis au bout d'un moment, AJ Styles décide de lui enlever son casque, un peu genre vas-y, respecte-moi, lève-toi et tout. Et donc il se lève et il se confronte un peu nez à nez, mais il se fout pas sur la gueule, j'ai trouvé ça pas mal, parce que généralement ça part toujours un peu en cacahuète.
Oui.
Et là, j'ai trouvé pas mal. Ils étaient là, ils se regardaient les deux, ils souriaient, ils se regardaient, ils se disaient des amabilités, manifestement. Et donc voilà, on fait monter la tension gentiment. AJ Styles donc s'avance vers un match pour le titre. On fait monter la tension tranquille. Et ça va être, je pense, ça s'annonce assez cool. Et puis encore une feu de, encore une rivalité assez fraîche. Maintenant, la question, ça va être quid de Dolph Ziggler?
Ah là c'est effectivement donc c'est vrai que là tous les gros heels ont l'air bien accaparés
Ah oui.
ah ça va être compliqué enfin, ça va être compliqué
Ça va être compliqué tout de suite. À
ouais.
mon avis, là, on va droit au heel turn, je pense. Enfin, on nous l'avait fait un peu mariner pendant la feud contre Dean Ambrose avec ce changement d'attitude de Dolph Ziggler beaucoup
C'est vrai.
plus violent, en guerre un peu contre tout le monde, parce que finalement. Voilà, personne lui fait confiance, l'autorité lui fait pas confiance. Je vais vous prouver, je vais vous prouver. Là, il sort quand même de deux défaites terribles. Enfin, c'est des défaites, voilà, dont on pourrait croire, kayfabement parlant toujours, hein, mais on pourrait se dire, est-ce qu'il va s'en relever? Parce que il vient de perdre coup sur coup deux matchs de très très haute volée, très accrochés, très longs, où il n'est pas passé loin. Le premier, c'était pour le titre. Là, maintenant, c'était pour une chance de revenir encore pour le titre. Maintenant, il sait que c'est fini. Voilà, il a perdu ça. Le wagon, le train est passé. Est-ce qu'il va s'en relever? En fait, c'est un peu ça. Je pense que la storyline, ça va être ça. Et rarement la WWE nous a fait des. Je pense que c'est contre-productif. Maintenant qu'ils ont annoncé AJ Styles, Dean Ambrose à Backlash, ils vont pas faire du rétropédalage. Et sous prétexte que Dolph Ziggler va s'énerver, ils vont pas le réinclure. Ils vont pas faire un triple threat, je pense pas. Donc du
Non,
coup,
ce serait.
ça va être marrant de voir peut-être sa haine, sa hargne, ça a culminé peut-être pendant quelques semaines, jusqu'à Backlash, et peut-être qu'à Backlash, il va péter un boulon, intervenir, on ne sait pas, et puis commencer un heel turn.
Oui, c'est plutôt. Oui, effectivement, c'est peut-être un des scénarios les plus intéressants et les plus naturels, hein, finalement.
Franchement,
Sans
c'est. Et
jouer au
moi,
devin,
c'est
naturellement,
ça,
c'est ce que nous
ouais.
raconte l'histoire. Donc.
C'est ça, moi, ça me gênerait presque pas. Enfin, c'est pas parce que, du coup, on y pense et que ça semble probable que ce sera mauvais, parce que c'est presque naturel. Enfin, c'est organique, un peu comme feu de. Enfin, tu comprendrais le cheminement de pensée de
Et
Dolph
c'est là
Ziggler.
toute la force de l'écriture de cette rivalité, de l'histoire de Ziggler, c'est que souvent, en tant que suiveur, on fait des prédictions, mais c'est mécanique, c'est parce qu'on a l'habitude, on sait comment ça fonctionne.
Voilà, on sait que machin va intervenir là
Oh,
parce que voilà, c'est comme
exactement.
ça, c'est les ficelles.
Et là, on embarque totalement parce qu'il y a l'histoire derrière. Et c'est là,
C'est ça.
c'est très, comme tu dis, c'est organique, c'est là où
C'est
ça
ça,
marche le mieux.
ça vient des tripes. Tu dis, tu t'identifies vachement à Dolph Ziggler. Il a perdu un match terrible. Et là, maintenant, on vient le faire chier dans les vestiaires à SmackDown. Là, la petite rivalité, la mini feud sur un épisode était parfaitement et bien écrite parce que. Finalement, il a perdu un match horrible. Et là, tu as le connard AJ Styles qui vient dans les vestiaires, qui se fout de sa gueule et tout. Bah forcément, tu t'énerves et tu as envie de le défoncer. Et la suite s'écrit toute seule. Donc, c'est très bien parce que tu ne peux pas ne pas t'identifier et ne pas ressentir ce qu'il ressent. Donc, tu es forcément derrière lui. Donc, c'est nickel comme écriture. Donc, c'est très bien. Et ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont en faire. Dans les semaines à venir, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer, voilà, il sombre un peu dans la du côté obscur, parce que là, il pète un câble, il en a marre.
Il agresse Kalisto dans les toilettes. Oui, ok, on voit le genre.
On voit le genre.
Ok. Donc, une écriture au top. Du coup, là, justement, les tops, les flops, c'est notre dorénavant célèbre
Le mot de la fin.
conclusion. Le mot de la fin, effectivement. Donc, Giscal, pour ce super épisode de SmackDown, de ce week-end totalement, complètement fou, entièrement dédié au catch, quel a été ton top? Ton flop et une petite note pour sanctionner tout ça.
Petite note pour sanctionner tout ça. Je vais commencer par la note, puisque j'ai trouvé que c'était exceptionnel. S'il y a un épisode que vous devez regarder cette semaine, c'est SmackDown. Donc je vais mettre 4,9. Je ne sais pas si on a le droit, mais.
4,9.
Non, mais enfin,
C'est
je.
d'accord. Mais tu sais quoi, on est chez nous, on est à la maison, on fait ce
Qu'on
qu'on veut.
veut.
4,9.
4,9 sur 5. Je ne vais pas
Oh
mettre la
putain.
perfection parce que.
Il n'y avait
Ça
pas John
n'existe.
Cena.
Exactement, il n'y
Il
avait pas
était
John.
là via son brassard.
Il était là via son brassard, son esprit était là, mais son esprit a été bafoué par AJ Styles. Mais bon. Donc je vais mettre 4,9 parce qu'on n'avait pas la perfection. Mais c'était fantastique, enfin, c'était exceptionnel. Très bel épisode où tout avait du sens, tout avait un enjeu. Les filles ont été mises en valeur, les équipes ont été mises en valeur. La feud pour le titre suprême a été magnifiquement écrite. Enfin, c'était super. Donc il n'y avait rien à acheter en fait. Il y avait deux excellents matchs. C'était top.
On n'a pas trop vu Shane McMahon.
On n'a pas trop vu Shane McMahon, exactement. Donc du coup, mon top, ouais, c'est difficile de ne pas le donner au match AJ Styles contre Dolph Ziggler, qui était vraiment
Ah, il le mérite,
très,
hein.
très, très gros match. Donc allez, courez-y. Mais il y avait énormément de top pendant toute l'émission, mais bon, ce sera celui-ci.
Ça, c'est le top du top.
C'est le top du top. Et mon flop, putain, franchement, je sais pas, hein, il n'y en a pas.
Attends, là, on va dégoûter nos copains de Catch Up Pro si on galère à trouver des flops, alors qu'eux, ils savent même pas lequel choisir.
Écoute, mon flop, merde. Mon flop,
Peut-être que... Oui, vas-y.
vas-y, allez, on va dire que mon flop, ce sera le fait que. C'est un faux flop, c'est le fait que Breezango soit déjà sorti du tournoi. Je suis très triste. Je pense qu'ils avaient mieux à faire. Voilà, je vais dire ça.
Ah. Ok, ouais, effectivement, c'est un faux flop. J'aurais pensé que tu aurais peut-être parlé de la ceinture intercontinentale.
Ah, j'aurais pu.
Voilà, c'est une façon de glisser un flop sans dire que c'était mon flop, t'as vu? C'est pas mal, hein.
Ouais, pas mal,
Alors,
hein.
bah moi, effectivement, sur la note, c'est vrai que c'était quand même bien solide, bien fameux. Je vais mettre un 4,25.
C'est solide.
C'est super solide, effectivement. Voilà. Quasiment tout était là en fait. Ils ont réussi vraiment en 1h20 à tout mettre. Donc, dans mon flop, je vais mettre vraiment ce cette volonté, cette construction de, enfin, de reconstruire justement, de construire, puisqu'elle part de, on part de rien là, ces fameuses nouvelles divisions tag team et féminines. Donc on prend visiblement, ils prennent vraiment ça au sérieux, ils ont, prennent ça à cœur à la fois pour construire les équipes, les catcheurs et les catcheuses. Donc ça pour moi c'est vraiment c'est mon top de la soirée. Et mon flop par contre c'est ce petit manque d'ambition justement par rapport à ces fameux titres. Ce manque de voilà, on nous annonce qu'on veut se différencier, mais voilà, à la fois sur le design des titres le nom qu'on leur donne.
Vrai que c'est dommage.
C'est
Ils auraient
dommage de ne pas
l'occasion de
réussir
faire
à
quelque
marquer le
chose.
coup d'une façon ou d'une autre, d'avoir créé quelque chose de nouveau, de frais, justement,
C'est
toi.
vrai. À la limite, sur l'Universal Title, ça me dérangeait moins. C'est un peu le pendant du titre, à part le nom, parce que le nom est pourri, mais
Tu veux
le
dire concernant le
design.
look, ouais, le design?
Ouais, ça me dérangeait moins, c'est le pendant du titre suprême. Bon, voilà, ça donne une image un peu peut-être. Ça lui donne instantanément une image assez prestigieuse de copier
Bah surtout, ça le met, ça valide le fait que c'est un titre
Ouais,
mondial.
mondial. Mais après, c'est vrai que pour les autres, c'est con. Enfin, c'est vrai que c'est
Ça
dommage.
fait un peu trop miroir, toi. On est un peu trop là dans. Ils font comme si bah, on va faire pareil. Et voilà, bah, nous, on va juste mettre tout en bleu. Bon, voilà. C'est ce côté manque d'ambition. Après, le pendant, c'est qu'effectivement, on veut construire ces divisions. Et ça fait
Ah
plaisir.
ça, je suis d'accord. Et je trouve que de manière générale, SmackDown exploite beaucoup mieux. Bon, après, ils ont moins de monde, hein, mais ils ont aussi moins de temps. Ils exploitent beaucoup mieux leur roster dans sa globalité que Raw, quand même.
Effectivement. Donc, bah, à suivre la semaine prochaine hein, pour la suite du tournoi Tag Team. Il va également falloir un peu encore renforcer la division féminine, puisque Naomi et Natalya, par exemple, n'ont pas combattu. Et surtout, l'arrivée de Heath Slater et de Rhino, la nouvelle team.
Rhino,
Et
contre qui?
visiblement, bah, il manque une team hein, dans ce tournoi. Si,
Alors, contre qui?
alors voilà, contre qui, effectivement. On découvrira ça donc la semaine prochaine. Giscale, je te dis encore merci.
Ah bah écoute, merci à toi.
Profite bien de la piscine.
J'y retourne de ce pas.
Voilà, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Catch Up. Vous pouvez évidemment nous suivre sur iTunes, sur PodCloud et sur YouTube. Laissez des commentaires, mettez des notes, partagez sur les réseaux sociaux. Ça aidera le podcast à se faire connaître car c'est important et puis surtout continuez à nous écouter, n'hésitez pas à intervenir, nous poser vos questions et nous donner vos avis sur ce fameux fabuleux week-end de catch qu'on a connu. Voilà, gros bisous à vous, salut Giscal et à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Mais c'est comme ça que je récupère des petites anecdotes, des petites citations que j'aime bien mettre à la fin. Je trouve ça assez rigolo, ça rajoute. Ça nous donne un côté un peu humain.
C'est ça, on n'est pas des machines.